Bonjour François Bazin.
Bonjour.
Je vous présente en quelques mots, journaliste. Vous avez commencé votre carrière en 1982 à La Croix, puis vous avez rejoint le Nouvel Observateur jusqu'à occuper la fonction de rédacteur en chef adjoint, puis après rédacteur en chef, chef du service politique de 2006 à 2014. Et puis vous êtes, je le précise, diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'une thèse de doctorat, comme on disait à l'époque, de troisième cycle, consacrée au MRP. Écrivain et essayiste, on vous doit quelques pépites, je dis bien, par exemple, Le sorcier de l'Élysée, La vie secrète de Jacques Pilon, publié chez Plon en 2009, ainsi qu'une histoire du quinquennat Hollande, Rien ne s'est passé comme prévu, les 5 années qui ont fait Macron en 2017 chez Robert Laffont. Alors, on vous retrouve chez Plon aujourd'hui pour ce livre que je montre à la caméra, consacré à Pierre Lambert, que vous appelez Le Parrain Rouge, et dont vous nous présentez en sous-titre Les vies secrètes d'un révolutionnaire. Alors, ces vies secrètes, dites-vous aussi à la fin du prologue de votre livre, c'est page 22, font de Lambert un miroir dans lequel se reflètent les événements d'un XXe siècle de bruit et de fureur. On reconnaît l'expression, rien n'aura échappé à cette longue vie d'éternel militant qui n'avait que 14 ans quand il s'est engagé et qui était toujours encarté à 87 ans, à l'heure du dernier souffle. Fin de citation. Dans le prologue de votre livre encore, vous écrivez Le Parrain Rouge, entre guillemets, était aussi un agent d'influence. Il n'était pas fait pour la conquête et encore moins pour l'exercice du pouvoir. Sans doute faut-il d'ailleurs s'en féliciter. Alors, cette dernière remarque, elle fait un peu froid dans le dos, rétrospectivement, mais on va revenir évidemment sur la personnalité et la trajectoire politique de Lambert. Première question qui est liée à cette expression d'agent d'influence, après on va détailler, mais agent d'influence auprès de qui et comment?
Pour comprendre Lambert, il faut voir quelle est sa position. Il fait partie de ces tribus, ces familles qui ont milité entre le bloc communiste et le bloc socialiste. Cette chose extrêmement importante, je pense, dans la vie pour comprendre ce qu'a été la gauche. Et c'est des anarcho-syndicalistes, des anards, des trotskistes, etc., etc. Et leur problème à eux, c'est se réinsérer dans le mouvement ouvrier, retrouver une place centrale. Et ils n'imaginent pouvoir le faire qu'en s'infiltrant ou en participant à des organisations qui ne sont pas les leurs. Donc ils sont toujours dans cette double mouvement et cette contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois ils veulent bâtir une direction révolutionnaire, comme ils disent, et en même temps s'insérer dans la classe, soit par le syndicalisme, soit faisant de l'entrisme dans les partis politiques, plus au Parti socialiste, au SFIO, qu'au PC, parce que c'est plus facile. Et donc, leur spécialité, c'est d'être toujours entre les lignes et de naviguer comme ça. Ce qui fait à la fois le fait qu'ils aient été considérés comme des éternels magouilleurs, etc. Et en même temps, ça fait leur charme et leur talent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Et quand on écrit une biographie, quelqu'un qui est toujours là dans les histoires de la gauche, entre son premier engagement à l'âge de 13 ans en 1933 jusqu'à l'âge de sa mort en 2007 à l'âge de 87 ans, on raconte la vie de Lambert, quelque part on raconte une partie de l'histoire de la gauche. Et on l'éclaire sur des points qui, à mon avis, sont pas assez travaillés, un peu oubliés. Et moi, j'ai trouvé ça. C'est pour ça que j'ai commencé cette biographie. Et c'est le plaisir que j'y ai pris à la rédiger. C'est ça. C'est un miroir.
Alors, on va revenir sur ce qu'on peut comparer par analogie à un peu la stratégie du coucou, quoi. Hein. On est un peu dans le nid des autres. Mais vous citez au début de votre livre. Jean Hentzen, je ne sais pas si je prononce bien, une thèse soutenue en 2019 et dans laquelle l'auteur dit que Pierre Lambert, alors on va y venir, hein, c'est le blaze de Pierre Boussel a utilisé 25 pseudos au cours de sa vie. Alors, ce n'est pas Fernando Pessoa, le grand auteur portugais, qui était un fou des pseudonymes, hein, lui aussi. Hein. Et celui qui est resté, donc, qui est resté pour Lambert, pour Boussel, c'est Lambert. Hein, voilà. Et vous dites que, dans une note de bas de page, page 23, le parti pris qui a été le vôtre en tant qu'auteur a été d'appeler le héros, si je puis dire, de votre livre, Boussel, jusqu'en 45, puis Lambert, puisque c'est là que le pseudo lui reste. Alors, par commodité, dans notre échange, on l'appellera Lambert, puisque c'est le nom de sur la couverture. D'où vient cette transition trotskiste de ce qu'on appelle le blaze? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot?
D'abord, c'est une tradition qui n'est pas spécifiquement trotskiste, c'est les mouvements révolutionnaires, à partir du moment où ils sont clandestins. Pour se protéger, alors on va appeler ça un pseudo, on les dit un blaze, de l'argot, goût du milieu en plus, c'est le mot qui est passé. Donc,
oui, c'est le blason, en fait c'est une déclinaison du blason, c'est ça. Ça vient de blason, je crois.
En fait, c'est une façon d'être dans la clandestinité, quand on apparaît à l'extérieur, de ne pas apparaître sous sa véritable identité. C'est, alors après, il y a des gens... D'ailleurs, dans le livre, j'appelle, par exemple, je pense à Pierre Brouet.
Oui.
Qui était, et c'était son blase, c'est Scali. Tout le monde l'appelait Pierre Brouet, tout le monde savait qu'il était... Enfin, peu importe.
Pardon, François, même Boussel lui-même, ou Lambert lui-même, vous racontez un moment qu'il y a une réunion où il est clair qu'il y a des micros, enfin que Lambert sait que c'est écouté, il oblige tout le monde à s'exprimer sous son blaze, et puis à un moment il dit « Bon, mais quand je dis Scali, tout le monde aura reconnu Brouet
!» Alors, sur le nombre de ces blazes, alors, comme il signait beaucoup d'articles, etc., il en a eu trois, surtout Trémancy à la fin des années 30, Le Jeune pendant la guerre et Lambert. Alors, Lambert, un truc qui n'est pas dans mon livre, que je vous livre, qui m'a été raconté par son ex-gendre, récemment, c'est toujours dans ces enquêtes, il y a des gens qui veulent pas parler, puis après le livre sort. Mais pourquoi vous n'avez pas dit? Parce que vous m'avez pas parlé. Il me raconte que Lambert, le nom de Lambert, il l'avait choisi en lisant Les Misérables.
Ah oui.
Et que dans Les Misérables, il y a un passage, j'ai un peu oublié lequel. Enfin, il y a quelqu'un qui se présente qui choisit un faux nom, qui s'appelle Lambert. Et Victor Hugo écrit, c'était un nom bonhomme et très discret.
Ah oui.
Et là, c'est tout Lambert. Hein.
Ouais.
Le choisir un blaze bonhomme et très discret, c'est très révélateur de son état d'esprit. Cet homme voulait être un homme ordinaire.
Ouais.
Et dans les blazes, il y en a qui s'appelaient, Saïgon, l'autre Scali, l'autre machin. Choisissez des noms un peu. Mm. Là, Lambert, il choisit un blaze qui est... après Le Jeune, Lambert, il aurait pu choisir Dupont. Hein.
Oui, exactement. Oui, Martin. Oui.
Et ça me semble très révélateur de la personnalité de cet homme qui à la fois voulait être un dirigeant révolutionnaire et voulait être un homme ordinaire.
Alors, justement, on rentre.
Un militant ouvrier ordinaire.
Alors, on rentre dans la personnalité du personnage. Toujours dans votre prologue, vous évoquez les différents ouvrages qui ont été consacrés à Lambert, hein, et vous dites qu'ils insistent beaucoup sur son côté manœuvrier, pas franc. Vous dites même, je vous cite, qu'il y a du vrai dans tout cela, et en même temps, il faut bien reconnaître que le mystère Lambert procède du décalage entre une réputation de souplesse opportuniste et une personnalité ancrée dans son milieu d'origine, figée dans le souvenir d'un paradis perdu, hostile par principe à toute modernité. Et avec cette belle phrase, hein, vous dites « Lambert est resté un orthodoxe doublé d'un vieux croyant ». Alors, c'était quoi son paradis perdu à Lambert, selon vous?
Il faut raconter l'histoire de la famille de Lambert.
Ouais, voilà.
C'est une famille d'immigrés juifs venus de ce qu'on appelle aujourd'hui la Biélorussie, au sud de Minsk, qui viennent d'un chétal. Son père, Bussel au départ, ouais. Bussel quand il arrive en France. Après ses premiers frères, arrive après 1905. Il a été révolutionnaire, c'est ce qu'il disait, mais c'est toujours cette immigration était à la fois politique, économique, sociale. C'est des gens qui cherchaient à vivre tout simplement. Donc il arrive et sa femme le rejoint quelques années plus tard avec ses deux premiers enfants sous le bras à pied du sud de Minsk à Paris. Donc le Pierre Bussel est l'enfant très tardif de cette famille. Son premier frère était, je crois, né en 1900. Lui, il est né en 1920. Et son père, en 1920, une maladie mentale très grave, il était une psychose paranoïde. Et il est élevé par sa mère et sa sœur. Et à Montreuil, parce que c'est là où il habitait, il développe, je crois, l'idée que il faut qu'il trouve une famille de substitution, quelque chose. C'est l'école, la rue, et puis après c'est le parti. Et puis plus largement, c'est la classe ouvrière. Mmh. Donc c'est ça le substrat chez Lambert. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le pire pour lui, c'est être isolé dans la classe. Donc il a toujours fait ça. Et à la fois, comme c'est un vrai trotskiste qu'il est devenu, il a une lecture très littérale de ce que dit Trotsky, mais en même temps, pour se réintégrer dans la classe, il faut aller chez les autres, il faut fréquenter les autres. Le rêve pour lui, c'est le syndicat, parce que dans le syndicat, dans sa conception, tout le monde a sa place. Et dans les autres partis, parce que ce sont là où les militants sont les plus nombreux. Donc le rêve de Lambert, il y a autre chose chez lui, il y a 36.
Oui, alors on va y venir
mais c'est très important parce que c'est resté toute sa vie Montreuil, en banlieue parisienne. Vécu par lui comme une sorte de petit Bronx.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Et 36, avec les grèves, il a 15 ans, 16 ans. C'est le moment de pur bonheur qui est pour lui quelque chose de très profond, qu'il a gardé et sur lequel il n'a jamais voulu revenir. Je cite à un moment une rencontre avec qu'il avait eu avec un historien sociologue qui s'appelle Fougérolas.
Oui, tout à fait. Avec qui il a écrit un livre, un manuel d'instruction qui s'appelle Le Foulan. Hein,
Le Foulan. Oui. Et alors, est-ce que je me trompe pas, peu importe. Et il déjeune avec lui et cet homme qui est un universitaire, un spécialiste des problèmes de mémoire, dit mais c'est incroyable, cet homme a la mémoire d'un ouvrier de 36.
Exactement. Oui, mais c'est même plus ça. Il dit. Vous dites bien effectivement que même Fougérolas dit que Lambert était plus un professionnel, non pas de la révolution et encore moins de son élaboration théorique, mais de la simple construction d'appareil. C'est pour dire quand même que, et quand vous dites il se représentait comme un syndiqué, il le dit clairement. Avant d'être un citoyen, je suis un syndiqué. Hein,
voilà. Il a dit ça
un congrès d'OFO.
D'OFO. Si vous voulez trouver ce que pensait vraiment Lambert, on y reviendra, je pense, on le trouve plus facilement dans ses interventions dans les congrès d'OFO que dans ses textes au sein de l'OCI et des différentes organisations.
Je reviens à sa famille et à son judaïsme. Il en fait pratiquement jamais état et pourtant à ses obsèques en 2007 la cérémonie commence par l'écoute de Yiddish et Mamé, qui est la grande chanson yiddish que tous les juifs ashkénazes connaissent, qui est en souvenir de la maman, hein. Alors ça c'est très intéressant, hein. Vous dites il a été élevé par les femmes, mais il parlait pas de sa judéité, Et Boris Frankel, dans, sur lequel on reviendra, mais dans ses mémoires publiées chez mes amis bordelais du Bordelot, là, en 2004, il dit qu'il n'a jamais entendu parler Lambert Roussel de sa judéité, sauf une fois, en 86, quand Cambadélis organise une scission dans le dos de Lambert. Lambert dit, j'ouvre les guillemets, c'est le destin des Juifs de se faire niquer par les Grecs.
Voilà.
C'est très drôle, ça. Enfin, c'est...
Lambert était très extérieur, même dans son vocabulaire, ses références. Il disait, je suis juif, et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça. C'était un peu plus compliqué. Il ne faut quand même pas oublier qu'il avait eu un de ses oncles, qui est un des pionniers du mouvement sioniste, qui a une rue d'ailleurs à Tel Aviv, et que sa première fille,
oui,
dont il ne parlait jamais, a fini sa vie en Israël.
Israël, oui.
Elle était cartomancienne, ce qui est spécialiste du tarot marseillais, ce qui moi me fait rire encore. Mais sur Yiddish Mama, c'était très intéressant parce que je travaillais sur cette conclusion pour raconter l'enterrement et du coup je re-regardais la seule vidéo qui existe de cet enterrement qui est sur rue 89, que rue 89 avait publié. Et puis j'entends, quand le cercueil rentre avec le drapeau de la 4e internationale, il y a une chanson. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc j'interroge mes copains, en disant, mais c'est vous qui connaissez, c'est un chant révolutionnaire, c'est quoi, etc. Et puis, tout raconté. Heureusement, mon fils est plus au fait de la modernité que moi, m'a dit, mais c'est assez simple, tu vas voir, il y a une application, je mets mon téléphone, et ça sort, Yassili Rosenflat, Yiddish Mam. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et du coup, j'interroge les gens qui étaient, les proches de Lambert qui étaient à l'enterrement, et tous me disent, mais tu es dingue. Mais non, pas Pierrot. Pierrot, ces trucs-là n'intéressaient pas. Jamais il y a eu ça. Bah, j'ai dit, oui, peut-être, mais vous l'avez pas entendu. C'était tellement surprenant que vous ne l'avez pas entendu. Réécoutez. Et ils ont tous été obligés d'admettre, et du coup ils ont interrogé d'ailleurs la famille de Lambert. Et oui, c'est une chanson que Pierre aimait, je pense par rapport à sa mère,
bien sûr.
et qu'on a repassé. C'est moi, je trouve ça très touchant.
Ah oui, bien sûr.
Que cet homme, ce vieux athée, laïque, machin, etc.
Ouais.
Quand même, au dernier moment,
ouais,
cette dimension. Et par rapport à sa mère, qui était une dame très, une vie terrible, dure, très fatiguée, qui j'aime pas, je dis pas, elle a jamais travaillé. Non, elle n'en était pas capable. C'était et que tout ça remonte, c'est-à-dire que c'était son passé qui revenait plus que la religion. En même temps, il est très significatif. Il est d'une génération de ces enfants juifs de l'Askenaz qui arrivent et qui militent dans les années 30, pas dans les organisations juives. Quoique, au début quand même, quand il est à Montreuil, là où il commence à aller, mais je pense qu'il y allait plus pour les filles que pour le fond. C'était l'association de la jeunesse juive de Montreuil.
D'ailleurs, il a.
C'est là où il commence. Mais autrement, on ne trouve jamais dans la vie de Lambert de connexion.
Il a un très bon copain à Montreuil, puisque vous en parlez, qui, en fait, sur une petite bande d'une quinzaine, là, qui sont juifs et qui font un peu le coup de poing quand on les embête un peu. Il a un très bon copain qui s'appelle Gilbert Trigano. C'est quand même pas rien. Le créateur du Club Med, hein, je précise quand même. Hein, oui.
Gilbert Trigano, qui lui était juif séfarade, était quasi jumeau avec Lambert. Ils étaient à l'école ensemble, etc. Et il a raconté dans un très beau livre d'un historien qui s'appelle Jean Laloum, qui a publié un très grand livre sur l'immigration juive dans la banlieue parisienne dans les années 30 au CNRS. C'est un livre magnifique. Laloum a vu tout le monde, y compris Lambert d'ailleurs. C'est une des rares fois où Lambert parle de sa vie. Mais il a vu surtout Trigano qui a raconté ce que c'était. Et Trigano raconte bien comment c'était. Il dit on était pinailleurs, discutailleurs, en cela très juifs.
On n'était pas des violents, plutôt des discutailleurs, des palabreurs, très juifs pour ça.
Voilà. Voilà. Il disait quand même que quand ça marchait pas, qu'on les emmerdait, il cognait. Ouais. Et Lambert a dit un jour, j'étais un petit caïd.
Ouais, c'est ça.
C'était ça. Et cette génération a été élevée à la fois quand même par l'école républicaine, ouais, l'école Jules Ferry, c'est comme ça qu'elle s'appelait, hein, son école primaire. Très important. Et d'ailleurs, Trigano dit, nos instituteurs ont fait des gamins de gauche jusqu'au trognon. Et en même temps, il y avait la rue. Et cette bande de copains, etc. Et il est élevé dans ça. Faut voir quand même d'où la précocité de Lambert. Je raconte quand même que, le 6 février 34, et le 9 février, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a une réplique avant celle du 12 qui est organisée par le PC, etc. Qui extrêmement dur sur le boulevard Magenta à Paris, on tire à balles réelles. Hein. Il a fait 9 morts. Et Lambert, il a 13 ans à cette époque-là. Et il descend de Montreuil avec un copain pour aller voir. La poudre, ce truc-là, pour un gamin de 13 ans, il va boire. Il est... Comment dire, il est politisé par la rue, quand même.
Ce qui est assez fascinant au titre de la précocité, c'est que très vite, il va adhérer au PC. Enfin, il a 15 ans, il est à la JC, hein, Jeunesse communiste à Montreuil, donc en 35. Hein. Donc là, on est bien dans cette période où le PC, sur injonction de Staline, est en train de changer complètement de logique, hein, rentre dans la stratégie du Front populaire. Et par ailleurs, à Montreuil, c'est pas n'importe où, puisque le PC vient de gagner la municipalité, la mairie de Montreuil en 35. Vous dites très bien, c'est très juste, hein, c'est le moment où la ceinture rouge est en train de se constituer. Hein, voilà. Bon. Alors,
Montreuil, me semble, on parle toujours de Saint-Denis à cause de Doriot et de ce qu'il avait constitué. Ouais. Montreuil me semble être un laboratoire du PC tout aussi intéressant. Je lirai volontiers un jour une histoire du Parti communiste à Montreuil. Mais ça, c'est...
Je suis complètement d'accord avec vous. Puis en plus, c'est le lieu de la CGT. C'est là, pour le coup, on n'est pas dans la...
Commence à habiter là, et puis surtout, il y a Duclos.
Oui.
Jacques Duclos, qui habite à 200 mètres de chez Lambert, et le voit. Hein, c'est,
alors, le commissaire politique du PC à Montreuil, c'est pas n'importe qui, c'est Daniel Renoux, hein, journaliste à l'UMA. On dit même qu'il a assisté à l'attentat contre Jaurès, hein, au Café du Croissant, donc le 31 juillet 14. Hein. Et puis, il y a un secrétaire de cellule, DJC, qui s'appelle Yves Perron, qui va finir, enfin pas finir, qui va être élu député communiste de Dordogne, hein, en 45, hein, donc lieutenant FTP, etc. Bon. Alors, comment ça se passe? Pourquoi il se fait dégager très vite, le jeune Lambert, de la JC, quasiment au bout d'un an, même pas, quoi?
Mais parce que c'est un gamin qui y croit. On lui a fait coller des affiches contre la loi des 3 ans, contre la remanétarisation.
Faut dire ce que c'est que la loi des 3 ans.
Bon, c'est l'allongement du service militaire. Enfin, en gros, on lui a fait défendre la ligne du Parti communiste de refus de la guerre, ligne antimilitariste, etc. Bon, il le fait, il se fait même embarquer par les flics quand il a 13 ans. Sa mère va être obligée d'aller le chercher au commissariat. Et tout d'un coup, en 2 jours, parce que Pierre Laval a été voir Staline, etc., la ligne change. Et Staline approuve la remilitarisation. Il a 13 ans, 14 ans, et il ne comprend pas. Donc il pose les questions.
Ça, c'est pas très bon de poser des questions.
Je crois qu'il était... C'est un gamin un peu déluré. Ben, il pose les questions, quoi. Il n'est pas du style à passer sous la table. Il dit, mais je comprends pas. Et on lui répond, tu comprends pas, tu prends la porte. Et c'est ce qui se passe. Et pour lui, ça a quelque chose de fondateur dans une hostilité au Parti communiste dans sa version stalinienne et post-stalinienne, qui est alors là constitutive de son identité.
D'accord.
Comment dire, il a été les trotskistes sont naturellement anti-staliniens, mais Lambert a été anti-stalinien avant d'être trotskiste,
oui, d'accord,
et ça, pour des raisons. Viscéral. Enfin,
on va pas faire de psychologie à, comme on dit, de comptoir, mais vous croyez que c'est aussi parce qu'il croyait avoir trouvé peut-être une famille solide et puis qu'il s'en fait exclure, quoi.
Oui, ouais. Mais l'exclusion, c'est je crois que pour Lambert, c'est une déchirure.
C'est, ça, ouais.
C'est une déchirure. C'est il, en plus pour des raisons qu'il ne comprend pas. Il a été exclu. Il a été exclu souvent. Bah, il a été exclu d'organisations le PSOP de Pivert. Là, il comprenait bien ce qui s'était passé. Mais faut voir ce que c'est, ce gamin, un gamin de 13 ans qui s'engage comme ça. Il est en plus un petit.
Un cacou, comme on dit.
Cacou, machin, etc. Il dit mais c'est quoi votre histoire? On lui dit mais c'est Staline. Ah, vous dites, oui, alors qu'est-ce que j'en ai? Voilà. Et puis.
Vous dites effectivement il est exclu en 35. Ça va être assez compliqué de le tracer, comme on dit, hein, à partir de ce moment-là. Bon, alors vous venez de citer Marceau Pivert, pour faire simple, c'est l'aile gauche de la SFIO, hein, avec un courant qui s'appelle la gauche révolutionnaire. Il va être d'ailleurs, Marceau Pivert va être aussi crossé, si je puis dire, hein, par le binôme Fort Blum. Enfin, voilà. Hein. Et puis alors, il va rencontrer un.
J'en prie,
François. Vas-y. Oui.
Pivert, c'est très important parce que ça montre que Lambert, il n'est pas trotskiste tout de suite. On l'exclut, le PC l'exclut en disant t'es trotskiste. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Après, des trotskistes insérés dans la SFIO vont le chercher, les ducs, etc. Mais la première famille de Lambert, ça me semble très important. C'est des socialistes de gauche. C'est ça, sa première famille. C'est là-dedans qu'il vit. Alors après, avec des désaccords dans la fin des années 30 avec Pivert, il rejoint vraiment le trotskisme. Mais au début, Lambert est pivertiste. Ça joue parce que dans ses relations avec les socialistes, avec la SFIO, puis le PS, partout, je ne dis pas qu'il est de la famille, mais enfin quand même, il n'est pas loin. C'est un socialiste de gauche ou d'extrême gauche, mais
oui, il les connaît.
C'est dans ce bain-là qu'il a grandi et et d'un bain où il y avait chez Pivert à la fois des trotskistes, des socialistes, il y avait un peu de tout. Hein, c'est...
D'ailleurs, dans le cahier photo qui est hors folio, comme on dit dans le livre, qui est très bien, il y a une photo d'un meeting avec Marceau Pivert, ce qu'on voit. Alors, vous dites d'ailleurs que entre ses 15 ans et 19 ans, c'est-à-dire c'est facile pour lui puisqu'il est né en 20, donc entre 35 et 39, vous dites il n'y a pas un seul des problèmes auxquels il sera confronté durant le reste de sa carrière qu'il n'ait eu l'occasion d'observer entre 1935 et 1939. C'est comme s'il avait fait une propédeutique, là, un apprentissage accéléré, et en 4 ans, il est construit, c'est ça, comme militant révolutionnaire.
Il n'est pas construit, mais il est, comment dire, les problèmes qui se poseront sur la place du syndicat, sur le... pour le détail, la place des maçons, la place des rapports avec les socialistes, etc. Tous ces problèmes-là, il les a vus traités, développés dans les organisations auxquelles il appartenait dans les années 30. C'est l'objet de controverses, etc. Donc, comment dire, je ne dis pas qu'il est... il est initié.
C'est ça.
Je ne dis pas qu'il a tout compris, tout, mais... Quand ces sujets-là reviendront,
ça lui parlera.
Et j'insiste sur un point sur la constitution de Lambert. Il me semble être dans cette génération, dans ces dirigeants révolutionnaires, trotskistes ou pas trotskistes, celui qui intuitivement comprend et perçoit le mieux la vieille culture du mouvement ouvrier français. Il y a quelque chose de très français chez chez Lambert, ce petit gamin juif de la Fédération de Russie de l'époque, il sent ces choses-là. Et ça lui évitera des erreurs qu'a fait l'extrême gauche dans les années 70, ou des incompréhensions. Ça explique également son retard à voir l'évolution de la société, parce qu'il Lambert sent ça.
Ah, c'est sûr que c'est pas.
Et c'est très très important pour le comprendre. À mon avis, c'est presque son intérêt principal qui en fait presque une butte témoin.
Oui, c'est ce que vous dites.
De toute cette culture-là, des socialistes révolutionnaires, de ces liens avec de la question syndicale. C'est quelque chose que le mouvement ouvrier français a toujours travaillé. Choses qui sont vraiment oubliées aujourd'hui parce que les mémoires s'effacent. Mais lui, cette mémoire-là, cet instinct-là, il l'avait. Et quand il réagit à l'événement, quel qu'il soit, moi j'ai toujours le sentiment qu'il a un bagage, qui est à la fois un bagage politique qui fait de sa précocité et de son, mais pas simplement, qui est une compréhension instinctive, réelle, vécue de tout ce milieu-là. C'est pas un révolutionnaire
on comprend bien si on avait des doutes.
C'est pas un intellectuel.
C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et vous le dites bien d'ailleurs.
Qui vient par son cerveau. Il y a quelque chose de très tripal chez Lambert.
Alors on comprend effectivement. C'est pas du tout, par exemple, c'est pas la trajectoire de quelqu'un qui après 68 va être ce qu'on appelle un établi, quoi. Hein. C'est pas du tout un Linard, etc. C'est pas du tout ça. Non. Alors d'abord, il y a un problème de différence d'âge, mais effectivement, c'est parce que très 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 tôt, il va connaître, comme on dit, l'entreprise. Même si, quand même, et vous le dites bien, c'est très vite, ça va être très vite un bureaucrate. Mais on va y revenir. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Alors, syndicalement, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il milite à la CGT, au PTT, et dans la clandestinité, il est dans une structure qui s'appelle le Comité international pour la construction de la 4e internationale, et il défend une ligne trotskiste, donc, qui est celle du défaitisme révolutionnaire. Alors, on va aborder un épisode rapidement, parce que ça fait l'objet d'un chapitre chez vous, dans votre livre. C'est un procès, hein, qui se tient le 7 mai 1940. Alors, la date, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. C'est 3 jours avant le début de l'offensive allemande du 10 mai. Lui et sa jeune femme, qui s'appelle Sim, sont condamnés par la justice française pour atteinte à la sûreté de l'État après une arrestation qui a eu lieu le 16 février 1940. Bon, pensons sur les circonstances. Mais cette histoire-là, vous dites, elle va quand même durablement rester accroché, au paletot de Lambert. Et vous êtes, je pense, le premier à avoir plongé dans les archives du procès. Et, pardon, le terme est peut-être un peu fort, mais vous dédouanez Lambert dans cette histoire.
Non, mais le terme n'est pas fort, c'est tout à fait ça. Je vais faire simple. Il est, vous avez raconté les circonstances, ils sont une vingtaine à être attrapés dans une rafle qui a lieu. Distribution de tracts des fétiches révolutionnaires, etc. Le procès a lieu.
Pour qu'on comprenne bien, pardon François, je vous coupe, quand vous parlez de rafle, hein, c'est pas du tout la police allemande. Hein. On est en février 40, donc c'est la police française. C'est les RG, quoi.
C'est la police de Dalletty. C'est la police républicaine qui chope tout le monde. Et comme ils chopent les responsables communistes à cause du pacte germano-soviétique, comme ils prennent les gens du PSOP, enfin, c'est tous les gens qui en fait contestent la ligne de défense. Peu importe. Donc il y a ce procès et il y a une rumeur qui part très durable, entretenue, mais qui va très. Vous savez, Lambert, c'est pas un mec bien. Il s'est pas bien tenu lors de son procès. Il s'est couché. Il s'est pas défendu, etc. En gros, c'est non seulement c'est un combinard, mais c'est un lâche. En gros, truc qui c'est une Par exemple, Marguerite Duras, rencontrant un responsable de l'AJS dans les années 70, lui dit, dans les années 70, 30, plus de 30 ans après, on est ton Lambert, 40, etc.
Marguerite Duras, qui était irréprochable en matière de contact avec les officiers allemands. On dirait que c'était pour la bonne cause et pour Robert Antelme, mais quand même, pardon. Hein.
Je ne vous fais pas dire,
c'est ça. Oui, c'était une autre époque.
Et donc, il y a cette rumeur.
Ouais.
Auquel Lambert ne répond pas, il avait un côté.
Ouais.
Bon, moi je l'entends, c'est repris dans les mémoires inédites de Pierre Brouet, c'est repris dans tous les écrits, il sait pas bien. Donc moi j'ai fait assez simple, j'ai demandé le dossier. Donc et j'ai obtenu de la justice militaire l'ensemble du dossier d'instruction, c'est-à-dire tout. Le récit de l'arrestation des premiers gamins qui sont jusqu'au procès final. C'est très, très intéressant. Bon, et on voit bien que dans cette affaire-là, Lambert, d'abord, est pris dans cette rafle, pour aller vite, parce qu'un de ses camarades l'a balancé, autrement il ne l'aurait jamais pris. Et puis dans le procès, il a dit « Oui, moi je suis un militant révolutionnaire. Bon, » alors il s'est défendu en disant « Je ne connais pas ma femme, Suzanne Simkovitch, elle tapait les textes parce que ça lui rapportait de l'argent. » Mais autrement, il se tient très, 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 très bien. Donc, mais l'affaire est intéressante pour ce qu'elle dit sur l'époque, elle est intéressante sur ce qu'est Lambert à l'époque, et elle est intéressante parce qu'elle dit, ce qu'elle corrige par rapport à la rumeur. Lambert est confronté, il a 20 ans, il est confronté très très jeune quand même à ce genre de rumeurs dans un milieu trotskiste qui ne peut pas dire que les rapports entre eux soient toujours bienveillants.
Oui, mais justement, pardon, c'est ça qui est assez fascinant dans ce milieu, c'est que tout en étant quand même derrière Trotsky, qui a été la victime de Staline, et donc les trotskistes, on peut le voir après à propos de la Yougoslavie, etc. Bon, les trotskistes qui ont eu à souffrir des purges et des procès, il y a une espèce de code génétique, mais ils sont assez fascinés par les dossiers de police, par les rumeurs, par les accusations d'être des flics, etc., etc.
C'est toujours le cas des
clandestins.
Si on travaillait, je vais peu regarder sur les milieux anarchistes, d'ailleurs qui était parfois infiltré, en effet. Et puis, comment dire, ces militants révolutionnaires très minoritaires, il y a des hommes de caractère.
Oui.
Et qui sont parfois totalement caractériels. Pense à quelqu'un qui avait milité avec Lambert, qui s'appelait Grimblat.
Oui, vous le citez.
Qui a terminé, je crois, à la FNAC.
Oui, Pierre Grimblat.
Pendant la guerre et après, c'est un fou furieux, quand même.
Oui.
Pierre Brouet était un très grand historien.
Oui.
Mais quel caractère!
Et celui qui va créer Lutte ouvrière, qui s'appelle Barta.
Oui, Barta, c'est la même chose.
Oui.
Mais ces organisations petites qui sont pas loin parfois d'être des sectes favorisent un peu ce genre-là. En plus, ils sont en effet surveillés par la police. Ils sont combattus, et de quelle façon, par le Parti communiste, hein, quand même, et physiquement. Donc, ça crée de la parano.
Il y a quand même une période, vous parliez de l'attitude de Grimblat, il y a quand même une période qui est bien montrée dans votre livre, mais qui, avec un peu la distance, c'est la Seconde Guerre mondiale. Page 96, vous dites « Les trotskistes sous l'occupation se sont tenus à l'écart de la résistance officielle, y compris militaire. » Mais j'allais dire, c'est plus que ça. Quand on lit votre livre, on voit Lambert entre 41 et 44, on se demande si la France est occupée. On se demande s'il y a des occupants nazis qui traquent les réseaux de résistants, qui butent sans arrêt, enfin qui fusillent des militants communistes qui les torturent. Là, les bagarres, c'est entre mouvements trotskistes. Enfin, c'est assez surréaliste, quoi.
Alors, je vais devenir un défenseur attitré de Pierre Lambert et de sa vie. Je nuancerai un tout petit peu. Il faut quand même voir qu'entre 40 et 44, Lambert est un homme qui a été condamné à 3 ans de prison, oui. Qui s'est échappé, oui. Qu'il est juif, qu'il a ses 5 frères et sœurs, plus ses 2 parents, plus sa première femme qui sont juifs, enfin, une
c'est
fille.
C'est pas le seul, si je puis dire, dans la résistance.
Non, mais il n'est pas le seul. Mmh. Mais dire, comment dire, c'est quelqu'un qui... Bon, on comprend quand même qu'il... Son militantisme est un militantisme syndical.
Oui.
À partir de 1941, dans une usine à Clichy qui s'appelait Geoffroy Lejeune.
Geoffroy de l'oncle.
Il est quand même pas totalement absent. Bon. Pour le reste, il a ce qui est la lecture trotskiste de toute cette période, qui relise la Seconde Guerre mondiale comme la première, disant notre moment, c'est quand ça se terminera, il y aura une explosion révolutionnaire. Donc en attendant que l'impérialisme allemand et l'impérialisme anglo-saxon s'affrontent, nous on se prépare pour être comme Lénine et les bolcheviks en 17, être les hommes de la révolution de la prolétarienne qui arrivera nécessairement à la... Donc, ils sont dans ce schéma-là. Donc, l'idée, pas tous, hein, mais de beaucoup, c'est bon, pendant la guerre, mais on se forme, on se prépare, on est là, on fait du... Alors, il y a aussi un peu de propagande qui est à la fois courageuse et un peu folle, alors, en direction des soldats allemands, en leur disant... Vous aussi, vous êtes des prolétaires. Les gens qui font ça se termineront tous dans les camps, fusillés ou exécutés. Mais ils ont une attitude attentiste, mais qui est que je nie absolument pas, mais qui est argumentée intellectuellement.
Alors c'est ça qui est bien parce que vous dites en particulier. Ça, c'est quand il passe Lambert en février 44 du CCI au POI, hein, le POI, hein, POI qui existe toujours, hein, puisque il y a même un député POI.
Il existait même avant, mais
voilà. Le POI, bon, vous dites, et ça, c'est une phrase qu'il faut retenir, c'est page 86. Je vous cite là, quand la réalité contredit la théorie, eh bien, Bucel choisit cette dernière. Sur ce plan, il ne changera jamais. Ah, ça l'a quand même amené à faire de jolis plantages, quand même, d'un point de vue analytique.
Mais il avait même commencé avant. Je ne veux pas revenir sur sa réponse, Henri Molinier, etc. Mmh. En gros, pour lui, il y avait ce qu'avaient écrit Marx, Lénine, Trotsky, et notamment Lénine, qu'il y avait entre l'impérialisme, le stade suprême
du capitalisme
et le socialisme, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Donc, quiconque disait, mais oui, mais il y a un capitalisme d'État, ou comme le dira Mandel dans les années 60, etc. C'est pas possible. Si vous dites ça, vous remettez en cause ce qu'on dit Marx, Lénine, Trotsky. Donc, c'est impossible. Donc, il y a toujours ce raisonnement. Si vous dites ça, c'est une remise en cause de Marx, Lénine, Trotsky. Et comme on ne remet pas en cause Marx, Lénine, Trotsky, eh ben c'est que la réalité n'existe pas. C'est là où on revient sur l'expression vieux croyant. Il a cet homme qui est mouvant, tacticien, etc., et d'un dogmatisme en même temps, en interne, absolument hallucinant. C'est comme ça qu'il va développer dans les années 60, début des 70, l'idée que Trotsky avait raison en 38 en disant que les forces productives avaient cessé de croître. Ce qui est quand même étonnant à la fin de pleine période des 4 ou 5 glorieux. Donc il trafique le truc en disant oui, mais la croissance est des forces productrices destructives parce que c'est de l'armement. Enfin, mais pourquoi ils disent ça? C'est parce que Trotsky l'a dit. Donc Trotsky a dit que les forces productives, il a dit ça en 38. Et ben dans les années 60-70, Trotsky peut pas s'être trompé. Voilà. Et ça, c'est du Lambert Est-ce qu'il y croyait ? Quand même, c'est la vraie question. Ou est-ce qu'il disait ça parce que c'était une façon pour lui de construire son organisation sur le refus par principe de tout révisionnisme. Donc on construisait une organisation sur des textes sacrés, on construisait une église.
C'est ça.
Bon, après, c'est-à-dire on fait comme l'église, on s'arrange.
Alors justement, ce qui est assez extraordinaire, c'est pas du tout de la schizophrénie, c'est de voir, d'ailleurs vous le dites bien, il était capable d'avoir les qualités de négociation d'un syndicaliste, quoi, hein, habitué à trouver des compromis. Vous dites, dans les arrières-salles, vous dites ce qui est très important chez lui, c'était sa gastronomie, quoi. Il aimait manger sur des nappes à carreaux et on discutait, Alors, il va trouver en matière de gastronomie, il se trouve que moi, je l'ai connu dans mes recherches, un personnage extraordinaire qui s'appelle Alexandre Hébert, hein, qui est le chef de FO à Nantes. Alors, faut quand même dire que c'est pas un hasard que si Hébert est à Nantes, c'est la tradition anarcho-syndicale nantaise qui est héritière de Fernand Pelloutier, quoi. Hein. On est vraiment dans la grande tradition syndicale de FO, bon, anticommuniste.
Plus l'anticléricalisme.
Alors, anticlérical et anticommuniste, enfin les deux, quoi. Hein. À bas la calotte et à bas les rouges. Hein. Et leur relation, elle est étonnante quand même, parce que elle va nourrir aussi une alliance à FO.
Elle est étonnante. C'est ce qu'on lit parfois. Je pense aux livres anciens et pas totalement, enfin, intéressant et contestable dans ses analyses qu'avait fait écrire Christophe Bourseiller, oui, il y a maintenant 25-30 ans. Cet étrange monsieur Blondel, il dit, mais Lambert, le Hébert, mais pourquoi, comment? Enfin, lutte de classe, charte d'Amiens, anti-stalinisme, il y avait de quoi quand même réunir. Un homme comme Lambert et Hébert, et en même temps, ils sont dans la même position, ils sont entre le PC et le PS, c'est des gens au milieu. Donc il faut, c'est des tribus qui travaillent tout le temps ensemble. Étant entendu quand même que Hébert, quand on regarde bien, il participe aux réunions du PCI, qui était l'organisation de Lambert dans les années 40, oui, 50, avant même que Lambert en soit le chef de file. Il y a quelque chose de tout à fait normal dans les contacts classiques, dans les contacts qu'ont eu les syndicalistes révolutionnaires et les trotskistes dès les années 30, avec une partie du syndicaliste style école émancipée, pour aller vite. Tout ça, ça n'est jamais dans les mêmes organisations, ça a des controverses sans fin, etc. Mais enfin, d'abord, ils sont au même endroit et sur les fondamentaux, ils pensent la même chose. Ça crée pas des complicités, mais des convergences. Et comme en plus, ils vont chacun dans leur coin, ils sont pas très forts, il faut quand même se rassembler un tout petit peu. Donc il y a quelque chose d'assez logique. Alors pour Lambert, il a travaillé ça toute sa vie. Je crois écrire dans le prologue qu'on parle beaucoup de sa technique de l'entrisme, mais on ne parle pas assez de son art de la table. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à s'informer, à négocier, à voir tout le monde, parce qu'il est de la famille. C'est là où il rencontrait parce que là, pour lui, dans ses stratégies, la qualité d'avoir une très bonne information était quelque chose de, outre un plaisir, mais c'était un impératif.
Mais vous dites d'ailleurs, hein, il savait, il s'informait, et donc il s'adaptait. Hein, voilà.
Alors, c'était son obsession, Lambert. C'était pouvoir anticiper parce qu'il savait.
Alors,
plus il savait, plus on lui racontait, plus il jouait.
Alors, c'est un.
Parfois, il en savait trop. Hein, mais
on n'a pas le temps de trop développer. Bon, le personnage est assez fascinant. Bon, il va bosser à partir de 45-46. Pour lui, sa maison, c'est la sécurité sociale. Hein. Il rentre à la CAF, hein, à la CAF de la, de la Seine. Hein. Il va grimper les échelons, il va être un inspecteur, mais enfin, en gros, il ne fait rien. Il ne bosse pas, quoi.
Pour aller vite, c'est un permanent.
Oui, c'est ça, c'est un permanent. Il est même le seul permanent, dites-vous, de son organisation, hein, pendant un temps. Hein, il est tout seul.
Il est permanent de la CAF.
Oui.
Bon, dans un premier temps, comme il n'a pas son permis, il demande à un copain de le faire. Il faisait en deux jours ses inspections dans les entreprises, puis le reste du temps, il était... Ouais. C'est important parce que les autres étaient profs, ouvriers, etc. Donc lui, il était, pendant les 5 autres jours de la semaine, il était beaucoup plus... En même temps, assez vite, il a des responsabilités syndicales. Et à la CAF, ils ont bien compris que, font pour la tranquillité de la CAF, il vaut mieux que Lambert soit à l'extérieur que dans la maison. Donc, et puis il y a FO. En fait, sa vraie maison, c'est la chambre syndicale à Paris de la sécurité sociale. C'est son camp de base.
Il y a deux choses que je voudrais qu'on évoque. D'abord, il a été connu, j'allais dire, du grand public à la fin de sa vie, par l'épisode Jospin, hein, là c'est quand même quelque chose. Hein. Alors même si effectivement il s'est quand même présenté à la présidentielle de 88, où il a fait, je crois, 1,023%. J'ai même relevé je suis allé chercher son nombre de voix, c'est assez incroyable. Il fait 0,38, hein, 116 823 voix. Hein, quand Arlette Laguiller fait 1,99. 606 000 voix, elle fait 5 fois plus de voix que lui, quand même, au titre des trotskistes. Hein, voilà. Alors, mais cette candidature à la présidentielle, en gros, il passe sous les radars et il est connu pour l'épisode Jospin. Alors, vous en parlez, hein, c'est bien raconté. Racontez-nous ce que c'est que cette histoire. Qu'est-ce que fait Jospin? Voilà.
Juste un point. Oui. Lambert n'est connu à l'extérieur que pas pour lui, mais pour les gens qui l'a formé.
C'est ça, oui.
Dans les années, au début des années 90, Hamon et Rothman publient une
génération,
histoire très intéressante de génération, c'est deux tomes, 1000 pages. Oui. Le nom de Lambert apparaît une seule fois.
Oui, ça vous le dites. Oui.
Une seule fois. Ce qui est quand même, on voit bien les trajets politiques de
Hamon et Rothman. De Hamon et Rothman.
C'est quand même très étonnant. Et donc, on parle de Lambert. Quand il y a l'outing de Jospin juste avant la présidentielle.
C'est le titre de votre chapitre, hein, l'outing de Jospin. Ouais.
Et on parle de Lambert aujourd'hui, pourquoi il demeure aussi, c'est à cause de Mélenchon. Curieusement, cet homme ne survit ou n'avait, à un moment, n'a vécu publiquement dans le grand public que par les autres. Ça, c'est là. Alors, sur Jospin... L'histoire est banale et extraordinaire, c'est-à-dire que Lambert, d'ailleurs comme toutes les et l'OCI, comme les autres organisations trotskistes, dans les années 70 et même avant, envoie des militants dans les organisations, font ce qu'on appelle de l'entrisme. À mon avis, le vrai nom, c'est du travail de fraction, mais ça,
D'accord.
C'est bon. Et donc, ils ont un jour... je fais simple, un jeune homme frisé, etc., qui connaît, et c'est Lionel Jospin. Et il est énarque.
Attention, le père a eu quelques amitiés trotskistes, hein, en tous les cas, en 42, 43, 44, non, l'épisode de Moulin, donc.
Ouais.
Non.
Vraiment très... Je pense que la proximité intellectuelle, elle est par le molétisme du père de... qui... Bon, mais... Mm-hmm. Peu importe. Mais donc, les trotskistes, ils ont un énarque. On ne va pas aller à un énarque lui demander d'aller vendre information ouvrière sur le marché, etc. C'est un peu du gâchis. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On l'infiltre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça marche formidablement bien. Qu'on l'infiltre je crois en 70-71, en 73, l'infiltré Jospin, il rentre au comité directeur, au bureau exécutif, au secrétariat national du Parti Socialiste. Et puis même encore mieux, en 81, Mitterrand lui donne les clés du parti. Donc, à la fois l'histoire est banale, mais ça marche trop bien. Ça monte trop haut. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là, comment on fait avec Jospin, Mitterrand, qui à mon avis était totalement au courant de ce que, du pédigré de Jospin, qui est d'une perversité absolue, c'était vraiment un très grand politique pour ça, comprend que pour détacher Jospin de Lambert, eh ben, il fallait promouvoir Jospin. C'est-à-dire que plus il promouvait, moins il était dépendant de Lambert. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est une... Pour le reste, l'histoire est banale. Mais ça éclaire quand même quel est le projet de Lambert quand il envoie faire de l'entrisme. C'est pas simplement... Enfin, la taupe de Lambert, c'est pas une taupe de John le Carré. C'est pas pour raconter, ou très peu. De toute façon, Lambert, il voyait tous les dirigeants socialistes, il n'avait pas besoin de Jospin pour lui raconter. En plus, j'ai suivi le Parti Socialiste pendant longtemps. La lecture du journaux, c'est quand même une maison qui est très transparente. La lecture du journaux suffit à comprendre. Bon, peu importe. Donc, mais il envoie des gens comme Jospin parce que, dans son esprit, ils seront utiles dans le cas du déclenchement d'une crise révolutionnaire, où à ce moment-là, l'infiltré crée la scission, ou la fraction, à partir de la fraction, crée une scission dans le Parti Socialiste. C'est ça. Alors, à quoi sert Jospin à partir du moment où il n'y a pas de mouvement révolutionnaire? À rien. Alors, en plus, Jospin était détaché. C'est une drôle d'histoire, de Jospin et de Lambert. L'opération qu'a lancé Lambert a trop bien marché, et en même temps, la taupe, outre qu'elle a été retournée, si j'ose dire, par Mitterrand, en plus, elle servait à rien, puisque la crise révolutionnaire n'est pas venue. C'est quelque chose de fascinant, ce que ça veut dire d'organisation, de contact discret, etc., pour rien.
Et ce qui est par contre très intéressant, j'ai retenu ça dans le chapitre sur la outing, sur le comportement de Jospin face à cette révélation et l'attitude de Lambert. Il y a cette phrase où vous dites, finalement, ils n'ont pas eu besoin de se parler. Ils se comprenaient à distance, sans se parler, comme si, quelque part, il y avait un langage qui était un langage, on pourrait presque dire reptilien, quoi.
Écoutez, moi, ce qui me frappe, j'ai bien connu Jospin par... l'histoire du Parti Socialiste, puisque j'étais chargé de suivre ça de l'Observatoire, et dès le début des années 80, enfin, à la Croix, ce qui me frappe, c'est que surtout sous cette période, Jospin parle tout le temps à Lambert. Quand il dit c'est une parenthèse sur le tournant, à qui parle-t-il? Je sais pas qui parle, mais d'abord et surtout à Lambert, qui lui dit à ce moment-là, c'est un tournant. Il faut que tu convoques un congrès du Parti Socialiste pour dénoncer ce tournant-là. À partir du moment où il dit, c'est une parenthèse, on continue. Quand il dit, avant de quitter le Parti Socialiste en 88, « Bonjour la vie », vous savez, c'est une émission TF1 avec Anne Sinclair, je crois. Ouais. Mais c'est le moment où il ronde définitivement avec les trotskistes. C'est là où il arrête de payer ses phalanges. Donc il dit bonjour la vie. Et sur l'outing, les deux hommes, Lambert laisse partir le truc parce qu'il n'est pas à l'origine de la campagne. Il dit je suis pas une balance.
Il dit d'ailleurs à Cambadélis, c'est pas moi qu'on vise, c'est le frisé.
Sur les affaires de la MNEF, etc. Mais quand ça part en 2001, qu'est-ce que fait Lambert? Il regarde. Qu'est-ce que dit Jospin? Et il y a une chose importante pour lui, c'est que Jospin ne crache pas dans la soupe. Et sur ses premières interventions, d'abord à l'Assemblée nationale, et puis en plus sur Europe 1 avec Jean-Pierre Cabache, à cette petite période, Jospin tient la thèse. Oui, c'est un engagement de jeunesse que je ne renie pas, qui m'a été utile, et puis je suis passé à autre chose. C'est exactement ce que veut entendre Lambert. Et Lambert prend la parole derrière et redéveloppe la même thématique. C'est un engagement de jeunesse. Maintenant, il est autre chose. C'est pour ça qu'on le combat, non pas pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il fait maintenant, etc. etc. Ouais. Et au fond, ils sont tous les deux sur la même ligne, ils disent tous les deux la même chose, sans jamais se parler, mais parce qu'ils savent très très bien. Et ils omettent tous les deux de parler de ce qui est important, c'est-à-dire donner les dates.
C'est ça.
Parce que être un engagement de jeunesse, quand est-ce qu'il s'est terminé, l'engagement de jeunesse de Jospin? S'il s'est terminé en 1987 ou 88, c'est plus un engagement de jeunesse. Si c'est terminé début des années 70 ou 74-75, je vous ferai remarquer quand même que dans un livre d'interview avec Rotman d'ailleurs et Favier, Jospin dit, parle pour la première fois de Lambert, c'est après la mort de Lambert. Et il dit, oui, j'ai d'abord été socialiste, puis socialiste et trotskiste. Non, j'ai d'abord été trotskiste, puis trotskiste et socialiste, et enfin socialiste. Ce qui est un aveu absolument extraordinaire. Mais là encore, et les dates, mon garçon.
Alors, il faut qu'on termine, François. On ne peut pas terminer sans évoquer l'autre nom que vous avez cité tout à l'heure, Mélenchon. Avec cette phrase, Pascal 119, vous dites « Lambert n'est pas un détail pour le futur insoumis, mais ce dernier en est un pour celui qu'on enterre ce jour-là. » Vous parlez des obsèques de Lambert au Père Lachaise. Mélenchon surjoue quand il parle de son trotskisme et la proximité à Lambert. C'est une reconstruction ex poste.
Oui, moi je pense que Julien Drey sort un livre ces jours-ci sur sa question qui, à mon avis, il se trompe. Moi, je pense que le Mélenchon a été un jeune trotskiste quand il était à Besançon, quand il était très jeune d'ailleurs, mais est connu et reconnu. Il était patron de l'AG et de l'UNEF, donc c'était pareil. En plus, Mélenchon passe jamais inaperçu, donc tout le monde savait. Bon, après, il n'est pas exclu. Hein, je sais plus quelle est la formule exacte, parce qu'exclu, c'est un peu plus dur. Enfin, bon, il le pousse dehors parce que, en gros, il casse les pieds à tout le monde. Quoi. C'est Mélenchon était déjà comme il est aujourd'hui quand il était jeune. Bon, et puis après, il va au PS. Il milite, il gagne sa vie. Et un jour, dans le milieu des années 70, un homme le recrute comme directeur de cabinet de la mairie de Massy en banlieue parisienne, qui s'appelle Claude Germont. Tout le monde dit, ils ont infiltré. Bon, ben, Claude Germont est un des socialistes, proche de Pierre Joxe, responsable de la CGT, puisqu'il est le rédacteur en chef du Peuple. C'est surtout un homme qui est un ami de Lambert. Il déjeune régulièrement avec Lambert. Donc, il sait très bien qu'il fait venir. Les socialistes savent très bien qui est Mélenchon. On ne peut pas dire que c'est une taupe. Quand le Mélenchon se fâche avec Germont, à mon avis, il n'a plus de contact avec Lambert. Et il ne reprend contact avec Lambert, j'allais dire vraiment, que devant son cadavre. Le jour de l'enterrement, où il vient. Le seul socialiste avec Corbière et François
et de la Pierre.
Et 6 mois après, quand il quitte le PS et qu'il crée le parti de gauche, à ce moment-là, il reprend contact avec les anciens amis de Lambert, d'ailleurs plus par Corbière, des gens comme Chapira, Moutot, Gluckstein à l'époque. Et je pense que le Mélenchon est dans une logique d'héritage.
Oui.
C'est-à-dire que il a bien compris que ce qu'il y avait une force militante, des actifs immobiliers assez importants, quand même, il y avait quelque chose, et que se présenter au fond comme l'incarnation du lambertisme maintenu, c'était plutôt une bonne chose. Mais il faudra me montrer en quoi Mélenchon sur le fond est lambertiste.
Sur les purges, les prises de position. Sur les purges un peu.
Mais les purges, il y en a. Vous croyez qu'il y a que Lambert qui faisait des purges?
Non, mais il les faisait bien.
Bon, il y en a d'autres qui les faisaient bien. Regardez au PC, machin. Je ne veux pas insister là-dessus, mais sur les purges, qu'est-ce qui s'est passé aux dernières législatives? En gros, plutôt d'exclure, ils n'ont pas réinvesti des députés sortants, mis des candidats contre eux. bien signaler que dans le 7e arrondissement de Paris, les macronistes et Rachida Dati ont fait exactement la même chose avec l'ancien président de leur groupe. Je ne pense pas que Rachida Dati soit lambertiste. Et ça m'a été confirmé. Mais donc, les purges, hélas, 1000 fois hélas, c'est vieux comme le mouvement ouvrier, hein, et c'est vieux comme la politique. Donc je ne pense pas que la purge puisse être le signe du lambertisme. Que Mélenchon tienne son organisation comme Lambert la tenait, ça me paraît évident. Mais pour le reste, sur le fond, moi je cherche. La seule chose, alors je vais pas insister, où je retrouve la patte de Lambert dans ce que fait Mélenchon aujourd'hui, c'est dans l'idée qu'avait Lambert après 81 que la crise révolutionnaire serait déclenchée par une crise politique. Que la crise du bonapartisme, comme il dit, donc la crise du PS dans les années 83-84, pouvait être le déclencheur. C'est à ça qu'il a travaillé, ça n'a pas marché. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Mélenchon est un peu dans la même idée.
D'accord.
Que le chaos politique peut être un déclencheur. Mais
on ne peut que conseiller vraiment la lecture qui est un pavé, hein, qui est passionnant, plus de 400 pages, hein, sur cette figure, le parrain rouge, Pierre Lambert, les vies secrètes d'un révolutionnaire. Merci beaucoup, François Bazin.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Merci.